14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Il y a trop de choses qui se rapprochent, il y a trop de choses qui l'accusent. Et de toute façon, toute la famille avait déjà une suspicion sur lui, mais on voulait pas se l'avouer. Donc, tout au début, quand j'ai appris la disparition de ma sœur, tout de suite, on a pensé Paco. Mais si c'est lui, il a bien caché son jeu.
Bonjour, Francisco Benitez, Paco Benitez, était-il un tueur de femmes? 8 ans après le suicide du légionnaire de Perpignan, cette question taraude toujours les proches des disparus, mais aussi les enquêteurs qui n'ont pas réussi à forcer la forteresse Benitez. Un homme au parcours secret, un bellâtre aux multiples conquêtes qui avait cloisonné ses vies à la façon d'un labyrinthe, suicidé, sans livrer la moindre explication, si ce n'est sa volonté de clamer son innocence et de répéter qu'il était victime d'une campagne de calomnie. Les dernières traces des disparus de Perpignan, son épouse, sa fille, qui s'apprêtait à devenir une reine de beauté, et une ancienne maîtresse conduisent pourtant inlassablement à cet Espagnol, militaire exemplaire, légionnaire discipliné, dont tout le monde louait l'honnêteté et la disponibilité. Sous l'uniforme couleur sable et le képi blanc, existait-il un autre Francisco Benitez, plus sombre et plus impitoyable? Comment cet homme serait-il devenu un tueur en série et pourquoi l'enquête va-t-elle rebondir? Nous allons poser toutes ces questions aujourd'hui à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'énigme Francisco Benitez, un légionnaire qui va bientôt se retrouver cité dans une série de soudaines disparitions. En premier lieu, celle de son épouse et de sa fille. Ce 22 juillet 2013, Francisco Benitez pousse la porte du commissariat de Perpignan. Ce légionnaire espagnol, âgé de 50 ans, chargé du bureau de recrutement à la caserne Joffre, est venu avec l'intention de signaler la disparition de son épouse et de sa fille, toutes deux majeures, Marie-Josée Benitez, 53 ans, et Alison Benitez, 19 ans. Les deux femmes n'ont plus donné signe de vie depuis le 14 juillet, en milieu de journée. Elles seraient parties à Toulouse. Le militaire n'a pas le loisir d'expliquer quoi que ce soit. Trop de monde au commissariat ce jour-là. Il y reste 10 minutes. Son passage est simplement consigné dans le registre, la main courante. Il est déjà arrivé à son épouse de disparaître de façon inopinée. Le couple a souvent connu des hauts et des bas. En ce moment-là, il bat franchement de l'aile. Un avocat a été contacté pour fixer les modalités d'un divorce à l'amiable. À cause de toute cette histoire, Marie-Josée était d'ailleurs soucieuse ces derniers temps. À une amie, n'a-t-elle pas confié. J'ai quelque chose de difficile à faire, je ne peux pas t'en dire plus. Dans les jours suivant la double disparition, le légionnaire ne change pourtant rien dans son comportement homme à femme et quasiment libéré des obligations conjugales. Il a même invité sa dernière maîtresse, une Espagnole, dans son appartement au numéro 28 de la rue Richepin. Le 19 juillet, il a réservé une table au restaurant Les Pilotis à Le Cat. On l'a encore vu bronzer sur la plage du Baobab. Bref, rien d'un mari ou d'un père rongé par l'angoisse. Si l'absence de Marie-Josée peut se comprendre, celle d'Alison est loin de passer inaperçue. La dernière fois que la jeune femme a été vue, c'était le dimanche 14 juillet, dans la matinée, dans la station balnéaire de Canet en Roussillon. Elle participe alors avec d'autres postulantes à la présentation du concours Miss Roussillon. Ses parents, bien que séparés et en instance de divorce, sont présents et pas peu fiers de la soutenir. Avec son iPad, Francisco ne cesse de photographier sa fille dont il dit qu'elle sera un jour couronnée Miss France. Alison a préparé depuis des mois ce concours régional. C'est le rêve de sa vie. Elle attend avec impatience l'élection. Le lendemain, lundi 15 juillet, elle a rendez-vous pour une nouvelle manche de présentation dans la commune voisine à Prades. Rendez-vous qu'elle ne manquerait pour rien au monde. Mais contre toute attente, ses parents SMS laconiques qu'elle prévient son petit ami Jonathan d'un départ soudain pour Toulouse. Dès lors, Alison ne va plus se manifester sur ses divers comptes de réseaux sociaux où elle ne cessait de poster des photos. Cindy Philippiac, déléguée régionale du comité Miss, est la première à s'inquiéter de cette absence. Le 16 juillet, elle envoie quelqu'un au domicile d'Alison. Francisco Benitez répond que sa fille est partie à Toulouse avec sa mère et qu'elles ont coupé leur téléphone. La belle-fille de Francisco Benitez, Lydia, qui considère depuis toujours le légionnaire comme son père, se manifeste auprès de lui. Elle est inquiète. Le 14 juillet, elle a reçu un SMS de sa mère, Marie-Josée, bourré de fautes d'orthographe. Celle-ci lui indiquait qu'elle avait pris une décision difficile, mais qu'elle avait choisi de partir à Toulouse avec Alison. Elle a trouvé cette décision plausible, mais Lydia a été de plus en plus étonnée de n'avoir plus aucun contact avec sa mère et sa demi-sœur. Le 25 juillet, Lydia et Francisco Benitez se rendent donc au commissariat pour faire cette fois une déposition en bonne et due forme. Mon père n'avait qu'une obsession, retrouver sa femme et sa fille. Il avait projeté de sillonner Toulouse pour cela, certifiera Lydia. Un appel à témoins est lancé pour retrouver Marie-Josée. Yeux verts, 1m67 m, et Alison, cheveux châtain clair et yeux noisettes. Le 2 août, moins d'une semaine après le signalement de la double disparition, le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire pour disparition inquiétante. La police est saisie. Les policiers du SRPJ et de la sécurité publique effectuent conjointement les premières vérifications. Ils constatent que les portables de Marie-Josée Benitez et de sa fille Alison sont coupés depuis le 14 juillet en milieu d'après-midi. Aucun mouvement n'est enregistré depuis cette date sur leur compte bancaire. Les deux femmes n'ont pas leur permis de conduire, mais elles n'apparaissent sur aucune image de vidéosurveillance des gares de Perpignan et de Toulouse. La destination qu'elles auraient prise selon les SMS qu'elles ont adressés. Marie-Josée et Alison, considérées comme inséparables, adoraient toutes les deux Toulouse. Elles avaient même projeté d'y vivre. Francisco Benitez, que tout le monde surnomme Paco, est entendu en qualité de témoin par les enquêteurs. 14 juillet, il indique s'être rendu au concours des Miss à Canet-en-Roussillon. À 14h30, il a ramené Alison au domicile familial rue Jean Richepin dans le quartier du Bas-Vernay. Aucun des voisins, qui connaissent bien les deux femmes, ne les ont aperçus ce jour-là. Un détail intrigue les policiers. En ce jour de fête nationale, le légionnaire Benitez, toujours prompt à enfiler son uniforme pour le moindre salut au drapeau, était absent de la caserne. Il est resté chez lui. L'enquête tourne autour de Benitez. Une perquisition est organisée en sa présence, chez lui, rue Jean Richepin. Le légionnaire ne paraît pas dans son assiette, troublé quand les policiers décident de s'intéresser au sous-sol du logement. L'endroit est passé au luminol, un produit qui permet de détecter les plus infimes gouttes de sang. Des traces sont effectivement découvertes sur le sol, elles ont été nettoyées avec de la javel. Il va falloir désormais attendre les résultats. Le militaire dément être derrière la disparition de Marie-Josée et Alison. Il apparaît brisé. À Lydia, sa belle-fille, il confie « S'il leur est arrivé quelque chose, je me tuerai ». Les policiers enchaînent les auditions de proches. Une amie d'Alison indique que son père avait un jour proféré des menaces. « Je vous tuerai, toi et ta mère, on ne retrouvera jamais les corps ». 3 semaines après la disparition, tous les soupçons se portent sur Benitez. L'homme supporte mal ses regards. Qu'on pose désormais sur lui. Il reste cloîtré à la caserne, dans un bureau de fonction où il a aménagé un lit et où il dormait déjà avant que sa femme et sa fille ne s'évaporent. Auprès de Lydia, il se lamente. « Pour tout le monde, je suis coupable », dit-il. Le 4 août, Eric, un de ses amis, qu'il a toujours trouvé convivial, le croise à Perpignan. Eric explique « Il était au désespoir à voir comment on le présentait. Il ne savait pas comment gérer la situation. » 5 août 2013, dans la matinée, Francisco Benitez est retrouvé pendu dans les locaux de la caserne Joffre. Il s'est donné la mort en s'accrochant à la rambarde de la fenêtre des sanitaires aux alentours de 7h du matin. Le légionnaire porte son plus bel uniforme ainsi qu'un voile au ton de camouflage sur le visage. En guise de testament, il a laissé une vidéo tournée la veille dans le bureau de la caserne par Lydia. Le militaire y clame son innocence, crie son amour pour sa fille disparue, sans évoquer vraiment Marie-Josée, son épouse.
Je suis le papa d'Alison. Les gens qui me connaissent dans le monde, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Et ma fille, elle m'aurait fait une chose comme ça. De ne pas donner de nouvelles ni des choses comme ça, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Pour ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous passent dans la tête. Et on tient, mais c'est trop dur. Il y en a à la limite d'exploser.
Avant de mourir, il confie la vidéo à l'hebdomadaire Paris Match. Paco Benitez laisse aussi derrière lui une lettre où il répète qu'il est innocent, précise ses dernières volontés. Dans un ultime email adressé à son colonel, il écrit « Je vous demande, SVP, de ne pas me juger. Francisco Benitez amène avec lui une bonne partie de ses secrets, malgré cette mort brutale qui les prive de leur témoin numéro 1. Les enquêteurs vont aller de surprise en surprise. Francisco Benitez disparu, l'enquête reste ouverte pour retrouver son épouse Marie-Josée et sa fille Alison. Les policiers sont rapidement informés que le légionnaire apparaît derrière une autre disparition. En 2004, celle d'une Brésilienne de 39 ans, Simone de Oliveira Alves, à l'époque mère de 3 petits garçons et d'une petite fille. Une femme arrivée en France au milieu des années 90 et qui travaillait comme serveuse dans un bar de Nîmes. Benitez avait partagé sa vie et s'était occupé des enfants sans jamais révéler qu'il était marié depuis plusieurs années à Marie-Josée. Le légionnaire, très souvent en mission, revenait régulièrement à Nîmes jusqu'à ce que Simone découvre le poteau rose. Elle aurait alors décidé de le quitter. À la fin novembre 2004, et alors qu'elle avait déjà préparé dans la maison le sapin pour les fêtes de Noël et commencé à acheter les cadeaux, elle disparaissait subitement. À l'époque, les proches de Simone avaient pointé du doigt Paco Benitez auprès de la police locale. Celui-ci avait été entendu. Il avait expliqué qu'il s'était disputé avec sa maîtresse et que celle-ci lui avait envoyé un texto pour lui dire qu'elle ne reviendrait pas. Impossible de savoir si ce texto avait été vraiment envoyé par Simone. Celle-ci ne réapparaîtra jamais. Benitez ne sera jamais inquiété. 9 ans après la disparition de Simone, dont le scénario correspond étrangement à celui de Marie-Josée et Alison, une nouvelle enquête est ouverte à Nîmes. Nous cherchons à déterminer si les similitudes entre les deux affaires relèvent de coïncidences ou d'une réitération tragique d'un comportement criminel, confie alors le procureur adjoint de Nîmes. Les enquêteurs vont ainsi se replonger dans la vie itinérante du légionnaire Benitez. Il n'a cessé de changer d'affectation, l'île de Mayotte, Saint-Christol-d'Albion dans le Vaucluse, Marseille, Saint-Gilles dans le Gard ou encore Perpignan. Les fichiers concernant des personnes disparues sont examinés. Un détective privé évoque à ce moment-là la mort inexpliquée début 2000 de Sandra Martin, amie proche de Simone de Oliveira Alves. À cette époque, Benitez était en poste à une centaine de kilomètres de Tarascon sur Ariège, là où demeurait la jeune femme. Francisco Benitez serait-il un tueur en série dissimulé depuis des années derrière son uniforme de légionnaire? Les enquêteurs n'excluent pas une telle hypothèse, d'autant plus qu'une découverte macabre va renforcer leurs sentiments. Les policiers avaient déjà détecté de nombreuses traces de sang au sous-sol de la maison de la famille Benitez à Perpignan. Ils avaient également saisi les passeports de Marie-Josée et Alison, éléments permettant d'exclure un départ prolongé et lointain. Cette fois, des traces ADN appartenant à Alison sont prélevées dans un congélateur entreposé par Benitez à la caserne Joffre. Un témoin indique avoir aidé à transporter le fameux congélateur après le 14 juillet jusqu'à la rue Jean-Vieille-Dan, l'adresse de la Légion. D'autres traces ADN sont relevées dans un lave-linge. Il apparaît que le militaire a méticuleusement nettoyé ses appareils ménagers ainsi qu'un tapis de sol en utilisant de l'eau de Javel. De toute évidence, le légionnaire a voulu éloigner le congélateur de la curiosité des enquêteurs. Hormis ces traces, les corps des deux femmes demeurent introuvables. Le 9 août, les enquêteurs entendent la dernière maîtresse de Francisco Benitez, une Espagnole à laquelle il rendait fréquemment visite à Barcelone, à 2 heures de route de Perpignan. Il lui avait promis qu'il viendrait un jour s'installer avec elle à Barcelone ou en Galice. Il lui a très longuement téléphoné dans la nuit du 4 au 5 août aux alentours de 4 heures du matin, quelques heures avant de se pendre. Elle est sa dernière correspondante, cette femme blonde prénommée Maria Teresa, mariée, 46 ans, employée à la sécurité du consulat de France, était donc assez proche du militaire pour recueillir ses confidences. Son audition, toutefois, ne livre aucun secret. Maria Teresa ne peut apporter aucun détail important. Elle explique que cette nuit-là, son amant lui avait fait part de sa douleur d'être soupçonné. Il avait clamé son innocence et affirmé qu'il n'avait rien fait de mal à Marie-Josée et Alison. Maria Teresa l'avait trouvé complètement déprimé et avait cru à sa sincérité. Impossible de retrouver les dépouilles des femmes disparues dans cette région que Benitez connaissait comme sa poche et arpentait régulièrement. Les fouilles à la recherche du moindre ossement ou du moindre indice vont durer des semaines. 10 septembre 2013, une campagne de fouilles est lancée dans le secteur de Leucate, notamment autour de la station d'épuration de la commune et d'une pinède. Les moyens déployés sont exceptionnels et je pense que l'on aura des réponses à nos questions, confie alors maître Philippe Capsier, l'avocat de la proche famille des disparus. Des proches qui, selon l'avocat, veulent des réponses à leurs doutes et leurs interrogations. Les fouilles vont se prolonger jusqu'à la mi-octobre. Une première campagne qui ne donne rien, mais les enquêteurs vont rester fixé longtemps sur ce périmètre de Leucate, un lieu où semble-t-il le légionnaire avait ses habitudes. Son téléphone portable avait été localisé ici à plusieurs reprises les nuits suivant la double disparition. Le 23 novembre 2016, des ossements sont découverts dans cette zone sauvage sur une plage. L'expertise conclut à des ossements d'origine animale. 8 ans après l'évaporation de Marie-Josée et Alison, les secrets de leur mort demeurent bien gardés. L'enquête n'a à ce jour pas permis de remonter la piste des disparus, tout comme celle d'une précédente absente, Simone de Oliveira Alves, le légionnaire Francisco Benitez, surnommé Paco, ayant emporté dans sa mort le plus terrible des secrets.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, Cécile Hubert. Alors que s'est ouvert le procès le plus long de l'histoire, celui des attentats du 13 novembre, nous vous proposons d'écouter certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Policiers, rescapés, médecins, ils nous racontent leur 13 novembre dans notre podcast « Le procès du siècle ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur l'application RTL et toutes nos plateformes partenaires.